France Culture.
Plan large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Des formes de combat ce samedi dans Plan Large avec Shiori Ito, Ayman El Amir et Suzanne Seidenman et aussi Sophie-Catherine Gallet. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan Large. Il ne vous aura pas échappé qu'en ce 8 mars, nous célébrons la Journée internationale des droits des femmes. Les territoires du cinéma sont depuis des décennies et ces derniers temps plus encore un terrain d'élection pour les luttes féministes. Encore faut-il leur trouver des formes proprement cinématographiques. C'est le cas des cinéastes rassemblés dans ce studio. Aujourd'hui, la première est japonaise et journaliste. Elle s'est fait connaître dans son pays et le monde entier pour avoir été une des premières femmes à témoigner à visage découvert du viol qu'elle avait subi sous soumission chimique de la part d'un collègue, célèbre journaliste de télévision et proche du premier ministre de l'époque, le très puissant Shinzo Abe. C'était en 2017. De sa difficulté à se faire entendre et rendre justice, celle qui a été à l'origine de WeToo, le cousin nippon de MeToo, et d'une réforme de la loi sur le viol, jusqu'alors inchangée depuis plus d'un siècle, avait tiré un livre, La Boîte Noire, édité en France. 7 ans plus tard, c'est devenu un film bouleversant et haletant, Black Box Diaries, qui tient autant du journal intime que du thriller journalistique. Shiro Ito est avec nous dans ce studio pour nous raconter les 8 ans qu'il lui a fallu pour le réaliser. À côté d'elle, un cinéaste égyptien qui, en filmant en couple pendant 4 ans, au fin fond du sud de l'Égypte, dans un petit village copte, une troupe de théâtre de rue constituée de très courageuses adolescentes aussi revendicatives qu'inventives a remporté l'Œil d'Or, le prix du meilleur documentaire au dernier festival de Cannes. Ce sont les Filles du Nil et nous sommes également ravis d'accueillir ici Ayman El Amir. Une grande cinéaste féministe américaine est également à Paris ces jours-ci. C'est Suzanne Seidenman, la réalisatrice d'un des films phares des années 80, recherche Suzanne désespérément et d'autres encore à redécouvrir instamment. Elle est une des invitées d'honneur du Festival de la Cinémathèque française et nous en avons profité pour aller la rencontrer. Nous l'entendrons tout à l'heure. En fin d'émission, il sera encore question de forme et des années 80 avec Sophie-Catherine Gallet qui fera retour sur le meurtre dans un jardin anglais de Peter Greenaway. Mais pour l'heure, tout commence par une adresse au spectateur ou à soi-même à la veille d'une de ces actions qui change une vie et un pays.
So I decided to document myself. How I feel and yeah. What's gonna happen next? I don't know. But I know by next week, after 10th of May, which is 5 days before my 28th birthday, things will change. And I have a chance to talk about the truth, what happened to me 2 years ago, which happened, I feel, which has been ignored. This could be a big change in my life and some others, or many others. And I'm not sure. I'm scared and I'm not sure if I could be responsible for that. But all I want to do is talk about the truth.
Bonjour, Shiori Ito.
Hi, Happy Women's Day. Thank you for
Bonne
having
fête
me.
Des femmes, bonjour.
C'est au début de votre film Black Box Diaries qu'on entend ce son. Nous sommes en mai 2017, le lendemain. Vous allez, dans une conférence de presse, rendre publique l'agression dont vous avez été victime et annoncer que vous faites appel du classement sans suite qu'a décidé le parquet suite à votre plainte. Vous vous filmez avec votre téléphone portable. Vous dites espérer que les choses vont changer dans votre vie et de celle de beaucoup d'autres. J'ai décidé de tout documenter, dites-vous. Pourquoi est-ce que, dès ce moment, avant même que l'affaire prenne les proportions qu'on lui connaîtra, vous décidez de filmer? Est-ce qu'il y avait déjà l'intention de faire un film? Ou est-ce que ça tenait plutôt du journal intime vidéo privé, comme l'indique le titre de votre film? Je précise que c'est Harold Manning qui traduit vos propos de l'anglais. On reviendra d'ailleurs sur le choix de cette langue pour vous exprimer, Shiori Ito.
Well, so... That clip you just heard was 2 years after the rape happened.
C'était 2 ans après le viol.
Around that time for me was to
C'était le moment pour moi, pour des raisons de protection, de faire très attention. J'étais pas prête à faire un film, je ne savais pas ce qui allait m'arriver. J'avais peur. Parce que la personne que j'accusais était un homme de pouvoir. J'ai donc décidé d'enregistrer tout ce qui m'arrivait.
Et est-ce qu'il y avait aussi l'idée, parce que vous allez le lendemain témoigner à visage découvert, de vous filmer aussi pour ne plus être ce visage anonyme que sont d'habitude les victimes de viol au Japon, une façon pour vous de devenir un sujet et non plus un objet, devenir active et non plus passive?
Exactly. I felt like
Mais tout à fait. Dans la culture japonaise, toujours, les victimes sont toujours cachées. On ne leur donne même pas leur nom. Je voulais aussi, quelque part, briser la norme de la victime parfaite. Nous sommes toutes différentes. Il n'y a pas de raison d'avoir honte.
Vous vous retrouvez, de ce fait, dans ce film, à la fois... enquêtrice et sujet de votre enquête. Vous êtes aussi réalisatrice et personnage de votre film. Comment est-ce que vous avez vécu cette dualité? Je pense notamment à un moment, à la fin du film, où vous assistez, apparemment impassible, à la conférence de presse de votre agresseur.
C'était extrêmement difficile d'être journaliste, d'être victime et aussi réalisatrice. Mais ce film, pour moi, il était de faire un film en tant que survivante d'un viol. C'est mon journalisme, mes études de journalisme qui m'ont aidé à trouver la bonne distance à la fin du film. Il fallait toujours quand même que je garde ma casquette de réalisatrice. Si j'étais qu'une victime, je ne voulais pas montrer. Et donc j'étais vulnérable. Même vis-à-vis de moi-même.
Une autre double position dans laquelle vous vous retrouvez, c'est celle du temps. Je l'ai dit, le film a pris 8 ans à se faire. Les premières images qu'on voit datent de 2017. Au moment du montage, comment est-ce que vous avez regardé la Shiori Ito que vous étiez à l'époque?
You know, we had over 450 hours of footage.
Vous savez, il y avait 400 heures de rush. C'était d'une façon assez compliquée. C'était presque comme une thérapie. Il y avait tellement de moments dont je ne me rappelais même pas, que j'avais oublié. De pouvoir passer et revoir ces images, ça m'a finalement rendu heureuse. Parce que ce processus de faire un film a été vraiment un soulagement.
Il y a une double position qui est la vôtre aussi, c'est que vous avez fait ce film en vivant à l'étranger, parce que votre situation au Japon n'était plus tenable. Vous avez aussi fait précédemment des études à l'étranger, vous avez fait une année de lycée au Kansas, vous avez étudié à l'université le journalisme à New York. Est-ce que vous pensez que d'avoir cette distance aussi culturelle vous a permis non seulement de faire ce film, mais d'entreprendre les actions que vous avez entreprises?
Yeah, for sure.
Ah, mais bien sûr.
De savoir
parler anglais était déjà très important. Quand je ne suis plus au Japon, quand je ne suis plus une japonaise, j'avais la possibilité de dire non. Ça m'a donné une liberté de m'exprimer. Et puis quand j'ai raconter en public mon histoire, je me suis senti pas à l'aise dans mon pays. Il a fallu que je puisse me délocaliser, que je puisse partir. Et voilà, cet état de fait rendait possible de faire le film.
Alors, ce qui est frappant dans votre film, c'est qu'il y a ce qui est dit en japonais et ce qui est dit en anglais. Et quand vous vous adressez à ce téléphone portable, qui est vraiment comme votre journal intime, vous parlez en anglais. Pourquoi ? Est-ce que c'est... Et il y a des choses qu'on peut dire en anglais qu'on ne peut pas dire en japonais, même pour des questions de vocabulaire.
Shiorito. Vous savez, on dit souvent...
Yes, I like it.
So non, non, ça veut dire oui, j'aime.
Yes, and we are very, complicated.
On est très culture. On est une culture très complexe. En tant que femme, je ne peux pas dire non, ou je peux même pas commander quelque chose. Donc même quand je me réveille avec cet homme qui, je vous le vois, me viole, je lui dis s'il te plaît, non, s'il vous plaît, non. Et donc, il fallait que je change mon esprit, que je change de langue pour lui dire « va te faire foutre, va-t'en ». « Non » est un mot très lourd en japonais. Et ça me rendait les choses très difficiles de dire non.
Et encore maintenant, vous préférez vous exprimer en anglais à propos de ce film.
Mentalement, ça me met en sécurité.
But I guess I'm used to it now.
Je suis habitué.
In a way that I don't speak too
polite
in
Japanese. Ça m'aide de ne pas avoir la politesse du japonais. Donc je ne suis peut-être pas tout à fait audible au Japon maintenant. Mais d'être capable de dire ce que l'on veut n'est pas très traditionnel chez nous. Mais en tant que femme, je pense que c'est ça la façon qu'il faut de parler.
Alors, ce qui est compliqué quand on fait un film par rapport au livre que vous aviez publié déjà en 2017, hein, je crois, c'est qu'il faut faire, il faut mettre des images. Or, le grand problème de ce film, c'est qu'il y a des images manquantes. Ce qui vous est arrivé, évidemment, n'a pas été filmé, mais il y a aussi tout ce qui se trame dans le secret du pouvoir, dans le secret de la justice. C'était ça, un des enjeux du film, justement, de réussir à trouver des images, et montrer quelque chose à l'écran sur quelque chose qui est caché.
Vous avez raison. Et ce que vous avez dit aussi d'avoir les deux casquettes, c'était difficile. Parce que je ne pensais pas qu'une voix off était vraiment utile, parce que moi, je ne suis plus la même personne. Moi, maintenant, j'ai vu le film. Donc, il suffisait pour moi, c'était la seule chose à faire, de reprendre les images de mon journal intime. Essayer de me rappeler où j'étais, quand j'avais ces coups de fil. Donc, j'ai pris ma petite caméra pour commencer mon avis à moi, mon point de vue. De filmer tout, de filmer à travers la vitre de la voiture, pour effectivement trouver des images, les images manquantes.
Et par exemple, ce sont des images de tunnels qu'on verra au début et à la fin de votre film, avec des significations différentes. Ce sont des images de pétales, de cerisiers sur la rivière. Ce sont des images très poétiques. À quel moment est-ce qu'elles ont été filmées, ces images ? Est-ce que vous les avez filmées en pensant, là, les inclure dans un film ? Shorito.
It was filmed after I really truly faced myself with the diary.
Filmé une fois que je me suis confronté aux images de mon propre journal. Une fois que je me suis dit qu'il fallait que je trouve une façon visuelle. Il y a 7 ans, je n'aurais pas eu l'idée de filmer ces cerisiers en fleurs. Pour moi, d'avoir une caméra et de pouvoir regarder à travers cette caméra, c'était une aide.
Et c'est aussi pouvoir filmer ces cerisiers en fleurs, puisque vous dites dans le film que c'est à cette saison-là que vous avez été violé et que pendant longtemps, vous ne pouviez même pas voir ces fameux cerisiers en fleurs.
Yes, you're right. It was hard. So today,
ça a été dur. Aujourd'hui, je les regarde, ces cerisiers en fleurs. Je me dis, le temps vraiment est passé. Je n'ai plus de panique quand je vois ces cerisiers en place. Je ne les associe plus au viol maintenant. C'est ça aussi le processus du film m'a aidé. Quand on a un traumatisme, il faut créer quelque chose. C'est ce que j'ai envie de dire aux gens qui ont survécu à ce genre de crime. Il faut retrouver sa propre voix par la création.
Mais c'est un film aussi où on pleure beaucoup. Le spectateur pleure en voyant ce qui se passe, mais vous, vous pleurez aussi beaucoup. Et on est très surpris. Et c'est vrai qu'on a une habitude, une certaine pudeur dans le cinéma japonais. On ne montre pas ses émotions à ce point-là. Et pour vous, il me semble que c'était important de pouvoir filmer ses larmes, Shorito.
Yes, well, not even crying, laughing as well.
Ou pas seulement pleurer, rire aussi.
But I feel like being victim, we were always,
d'être victime
we were always asked to
nous
be
oblige
sad,
quelque part
to be
à toujours être triste.
So I want to break the idea.
Et moi, je veux casser cette idée.
You know,
tout le monde a une façon de survivre. Tout le monde a son processus. Et moi, dans ma vie quotidienne, de vivre, de rire, de boire avec mes amis, je voulais vraiment le montrer. Je voulais aussi montrer ma vulnérabilité au moment de raconter mon histoire.
Le film est sorti un peu partout dans le monde, je crois dans plusieurs dizaines de pays. Vous avez été reçu des prix, souvent des prix du public dans beaucoup de festivals, mais il n'est pas sorti au Japon. Est-ce qu'il y a une chance que ce film sorte un jour dans votre pays?
This film for me is love letter to Japan.
Ce film pour moi c'est une histoire d'amour, une lettre d'amour au Japon. La distribution pour le Japon ne semble pas possible. Mais je n'attends pourtant que ça, de partager mon histoire avec ma famille, avec mes amis au Japon.
C'est ce qu'on vous souhaite. Vous le chantez à plusieurs reprises dans votre film, ce I Will Survive de Gloria Gaynor, Shiori Ito, et ça en dit long sur votre très très combatif état d'esprit. Black Box Diaries sortira en salle mercredi prochain. Vous écoutez France Culture Plan Large, restez avec nous Shiori Ito. On part sur d'autres combats féministes et non moins courageux et non moins chantants, aussi à l'autre bout de la planète. عشان ما نقفش ونضيع مجدنا ونسالك يا عيد قولي ده مسرح ده حبيبي وسلم علينا
وانت اعملي مش قاعده تستهبلي بس
ما انا اقف لك يا محمله الناصر
يا مالك يا
انت بس يا بنت
اعملي حاجه
طب تعالي من ورا بقى
حافظي على بيتك
تتابع كل اللي اتكلم ورد على ابو غدايه
Bonjour Ayman El Amir.
Hello, nice to be with you.
Bonjour. Merci aussi de m'avoir invité en ce jour particulier.
Les filles du Nil qui donnent son titre à votre film, on vient de les entendre dans cet extrait, rire et chanter tout en construisant la scène de leur salle de répétition. C'est une demi-douzaine d'adolescentes d'un petit village du sud de l'Égypte, El Barsha. Elles forment une compagnie de théâtre de rue appelée Panorama Barsha. Leur spectacle, difficile à décrire, relève à la fois de l'agit-prop dans leurs propos, qui dénoncent les mariages forcés, les injonctions vestimentaires, le patriarcat en général, ça c'est pour le fond. Pour la forme, moi ça m'a évoqué la farce quasi médiévale qui subvertit les règles sociales en les ridiculisant. Ce sont elles, je crois, ces adolescentes qui, après vous avoir rencontrées, vous ont proposé de les filmer. Qu'est-ce qui s'est joué entre vous avec votre co-réalisatrice et compagne, Nada Riyad, et ces jeunes filles à ce moment-là, et pendant les 4 ans où s'est tourné ce film?
Quand on les a rencontrées, les filles, la première fois, on a eu le sentiment, qu'on ne savait pas tellement, elles étaient jeunes, elles étaient braves, elles faisaient ces performances interactives, en posant des questions très compliquées aux villageois. Et on s'est demandé, avec Nada, comment ça se faisait qu'elles étaient à ce point libres. Elles étaient plus libres que nous. Est-ce qu'elles garderaient dans un film cette liberté par rapport aux restrictions politiques, religieuses, économiques? C'était ça. En cherchant une réponse à cette question, on a commencé à tourner.
Mais vous n'avez pas tourné tout de suite, je crois. Il a d'abord fallu passer du temps, non seulement avec elle, mais dans ce village, pour trouver votre place dans cette histoire.
Yes, we met the girls in 2014.
Oui, c'est en 2014 qu'on les a rencontrées, ces filles. C'est en 2018 qu'on a commencé à tourner. Il nous fallait être certains qu'il y avait de la confiance partagée, pas seulement avec les filles, mais aussi avec leurs familles, les parents, les frères, avec tout le monde. On ne voulait pas être des étrangers dans ce village. Et donc, tous les mois, on allait les visiter, on allait rendre compte, passer du temps dans le village, à nous asseoir dans des cafés, rendre visite aux gens dans leur maison. C'était très important pour moi de faire partie de la communauté. Et pas d'être des étrangers.
Alors on voit ces jeunes filles au début faire des ateliers de théâtre dans leur salle de répétition et celle qui est un peu la meneuse du groupe, Majda Massoud, qui on dirait que c'est la metteuse en scène, va leur dire utilisez tout l'espace, ne restez pas au même endroit. Or il s'agit précisément d'une question d'occupation de l'espace pour ces jeunes filles. C'est une question d'occupation de l'espace public et de se créer leur propre espace à l'intérieur de l'espace public.
Mais dès qu'on était dans le village, on était rarement dans les espaces publics au début. Les hommes peuvent aller au café, ils peuvent jouer au foot, même rester dans la rue. Mais les femmes, non. Elles n'ont pas d'espace public à elles. Elles vont à point A au point B, ou elles restent chez elles, ou alors elles vont à l'église, mais à la mosquée. Et donc, c'est pour ça que ces jeunes filles sont braves et elles sont uniques. Elles ont trouvé un espace pour leurs rêves dans un espace public dominé par les hommes.
Mais il y a quand même une sorte de pacte entre elles et les spectateurs, qui sont précisément tous des hommes d'âge divers. Mais comme c'est un spectacle, elles peuvent dire des choses qu'elles ne pourraient pas dire dans la vie réelle.
Absolutely, I think.
Absolument.
What they are doing, I think that what they are doing through art is that they are role playing.
Par la création, elles jouent un rôle. Et ça leur donne la liberté, quelque part, de dire ce qu'elles ne peuvent pas dire à leurs parents, dans leur maison. Ce qui est très important et très intéressant pour nous, c'est que quand elles ont terminé le spectacle, quelque part, elles utilisent ce qu'elles viennent de dire pour quelque part confronter leurs parents de retour chez elle. Et donc pour elle, c'est très libérateur. C'est pas seulement une histoire de s'amuser. C'est pas un hobby. C'est une nécessité, c'est un art.
Shiori Ito, je crois que vous avez vu ce film, Les filles du Nil.
Yes, I was really drawn into all four girls.
J'étais tellement attirée, tellement séduite par ces filles extraordinaires et leur courage de parler en public alors qu'elles vivent dans un cadenas, dans une société très cadenassée. Elles parlent de qu'est-ce qui ne va pas dans leur culture, qu'est-ce qu'elles désirent. Mais elles ont chacune une vie différente. Et après avoir vu ces films, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elles sont devenues? Qu'est-ce qu'elles vivent? Comment ça se passe avec leur famille? J'avais tellement de questions. Et aussi, je vais vous dire, monsieur, merci. Parce que cette relation avec leur famille, parfois, est passionnante. Parce qu'un des pères veut vraiment s'intéresser à l'engagement de sa fille. Quelle relation extraordinaire et vraiment incroyable.
Alors, Ayman Al-Amir, deux questions, effectivement. Que sont-elles devenues des années après que vous les avez filmées? Et est-ce que vous avez été vous-même surpris par les relations plus complexes qu'on ne pourrait croire qu'il y a dans les familles, et notamment avec ce père qui soutient sa fille?
Un
de nos buts, c'était vraiment de briser les stéréotypes, pas seulement sur les femmes, mais aussi sur les hommes. Les femmes, dans le Sud, on les montre toujours comme des victimes, alors que là, nos héroïnes sont courageuses, elles racontent leurs histoires. Et puis, le portrait des hommes... c'est souvent un cliché. Mais là, ce père, il casse vraiment ce préjugé. Il parle de l'avenir de sa fille. Et ce qui est positif aussi, c'est que après le tournage, Fomajda, elle est venue en France. Maintenant, elle fait partie d'une école de théâtre. Ça fait plus d'un an maintenant qu'elle étudie le théâtre. Et puis, Heidi, elle a quitté son fiancé, ce qui est une bonne nouvelle aussi. Bien sûr, il y a eu des choses tristes. C'est que ce père tellement aimant est décédée.
Monica,
en ce moment, a eu deux enfants et elle a vraiment encore le rêve de devenir une célèbre chanteuse.
Oui, parce que ce qui est très troublant, c'est que votre film condense beaucoup d'années qui passent et tout d'un coup, on se rend compte qu'il y a des personnages qui disparaissent. C'est presque un film de Hitchcock, des femmes disparaissent. Et vous ne vous appesantissez pas dessus, mais vous prenez acte qu'effectivement, de temps en temps, des femmes sont effacées de l'espace public et de l'espace de jeu. Ayman Al-Amir.
Moi, je pense que pour ces filles, le plus grand antagoniste, finalement, c'est le temps. Elles sont jeunes et quelque part, on leur permet de jouer, de faire les folles. Mais quand elles grandissent, l'attente devient beaucoup plus forte sur leurs épaules. Surtout dans un petit village. Et donc, c'est ça, finalement, qui cause la disparition de ces films, non seulement de l'espace public, mais aussi du film. Parce que elles sont très présentes dans la première moitié du film. Et même quelque part, elles s'effacent elles-mêmes parce qu'elles doivent changer de vie.
Alors, je ne trahis pas la fin du film, on n'est pas dans un film à suspense. Et effectivement, à la fin, il y en a qui partent, mais il y a une nouvelle troupe qui arrive, il y a une vraie transmission de ce geste. Est-ce que, à votre connaissance, des jeunes femmes, des jeunes filles, aujourd'hui, continuent à faire ce théâtre de rue dans ce village ?
Mais oui, cette jeune génération de femmes, sont très fortes à l'intérieur de leur village. Et puis comme ce film est passé à Cannes, qu'il a eu des prix, quelque part, elles ont aussi été reconnues en Égypte. J'étais dans le sud il y a un mois, c'était très intéressant de voir que d'autres jeunes femmes fondent de telles troupes de théâtre dans d'autres villages. Et ça, c'est fort.
Oui, c'est d'autant plus fort que ce que vous filmez, on ne le voit jamais dans le cinéma égyptien en particulier, où d'habitude ce sont des citadins aisés, musulmans, dans les villes, au Caire ou à Alexandrie. Vous aviez aussi cette envie de filmer à la marge de la marge de la marge des jeunes filles dans un village au fin fond de l'Égypte, et en plus elles sont coptes.
Oui, la question de la représentation est très importante. Vous l'avez dit, dans les médias mainstream, depuis des années, en Égypte, on voit tout le temps des gens de la classe supérieure qui ont des grands appartements, qui sont très bien installés dans la communauté. Mais ça représente très peu de gens dans notre population. C'est très important de représenter ces gens, des jeunes, des filles et des coptes aussi. C'est une minorité en Égypte. Et il n'y a pas de film qui les représente, pas du tout. C'est important pour ces filles de se voir à l'écran. C'est une question de droit humain.
Est-ce que vous savez ce qui a pu les inspirer dans leur création artistique, ces jeunes filles? Parce qu'on a l'impression qu'elles inventent complètement un théâtre, comme si on revenait à la source même du théâtre. Or, ce sont des jeunes filles d'aujourd'hui, donc sans doute qu'elles doivent voir des choses sur Internet, sur YouTube et autres. Est-ce que vous savez d'où ça vient, ce théâtre, Ayman Al-Amir?
What's interesting is that they are not actually formally educated.
Elles ne sont pas véritablement éduquées au théâtre, mais malgré cela, on peut dire qu'elles trouvent leur propre art, qui est un mélange de leur propre expérience et aussi de leur culture, et aussi de ce qu'ils voient sur Internet. Parfois, elles parlent à un réalisateur, un metteur en scène de théâtre, et ils viennent, par exemple, du Caire. Il y a des visites, parfois, de gens de théâtre qui viennent les voir. Mais elles font, quelque part, un théâtre qui intéresse les gens et qui intéresse, finalement, l'avancée des choses dans notre pays.
On verra si on retrouvera ça sur des scènes un peu partout dans le monde, peut-être maintenant. En quoi est-ce que vous avez filmé, entré en résonance avec votre propre couple, si je puis me permettre cette question un peu privée, Ayman El-Amir, puisque avec votre compagne Nada Riyad, vous êtes cinéaste et vous avez aussi une vie privée qui, j'imagine, rentre parfois en conflit avec votre création artistique. C'est aussi ce que raconte le film.
Ce
qui nous a mené à ce film, je crois aussi, c'est qu'on a trouvé que notre vie était très similaire à ces petites filles. Nous, on n'est pas du Caire, nous. On vient... Moi, j'ai fait des études de physique, elle a fait des études d'ingénierie. C'est plus tard qu'on est devenus des cinéastes. C'était pas très simple. Notre société rejette ce genre de changement de carrière. Donc oui, de vivre ceci avec ces filles, c'était une catharsis. Et ça nous a donné aussi beaucoup d'espoir, même pour nous. Nada est enceinte maintenant, on attend un bébé. Et quelque part, cette idée-là, elle est venue pendant le tournage du film.
بختنا ماله يا رب بختنا ماله وبعت له جوابين جوا الجواب صورة من يوم ما حبيبي ما غاب والنفس مكسورة يا رب بختنا ماله قالوا الوضع موصوف للي انشغل باله قلت نجرب ونشوف بختنا ماله يا رب بختنا ماله انا عايز ادرس سنتين في الكليه يا رب هم سنتين اكيد السنه الجايه اكيد السنه الجايه.
Puisqu'on parlait de bébé, Ayman Al-Amir, en voici un dans cette scène où Majda et Monica, toujours amies, chantent leur rêve au nouveau-né de cette dernière. Merci beaucoup les filles du Nil et depuis mercredi sur les écrans et en cette journée internationale des droits des femmes. Pour chaque place achetée, votre distributeur du Lac Distribution reverse 1 € à la Fondation des Femmes. Merci encore à Harold Manning d'avoir également traduit vos propos. Vous écoutez France Culture, Plan Large, et c'est une grande cinéaste américaine que nous allons rencontrer à présent. Elle est ces jours-ci l'invitée d'honneur avec son confrère et compatriote John McTiernan, que nous avions rencontré au Festival international du film fantastique de Strasbourg. C'était le 26 octobre dernier. Grande invitée d'honneur donc du Festival de la Cinémathèque française, qui présente des copies récemment restaurées et met également en valeur, entre Pedro Costa, Henri Fonda et Werner Schroeter, une autre grande réalisatrice rageuse et féministe, la Hollandaise Marlène Goris. Suzanne Seidelmann, c'est l'autrice d'un film phare et immense succès des années 80, recherche Suzanne désespérément, le film qui, en même temps que la sortie de son album Like a Virgin, a lancé le phénomène Madonna, qui a aussi révélé Rosanna Arquette et qui se voit aussi aujourd'hui comme un témoignage très réjouissant de l'effervescence du New York post-punk et no wave, qui vit également à la même époque émerger un Jim Jarmusch. Mais un autre film l'a précédé, comme un brouillon plus âpre du second, Smithereens, errance d'une jeune fille sans talent qui rêve de percer dans le milieu artistique. classiques, puis d'autres suivront, comme la comédie parodique de films de mafia Cookie, ou le très mordant She Devil, la diable, un film mal vu et mal compris à l'époque, qui avait pourtant révélé la persona comique de Meryl Streep, et avait 25 ans d'avance sur le Barbie de Greta Gerwig, côté une démolition colorée et joyeuse du patriarcat. Autant de films qu'on peut voir en ce moment à la Cinémathèque, nous ne pouvions rater l'occasion d'échanger quelques mots avec Suzanne Seidelmann sur la terrasse de son hôtel, pas loin de la vénérable institution.
Oh, here it is. A message from Jim.
Huh?
Desperately seeking Susan. Keep the faith. Tuesday, 10 a.m. Battery Park, Gangway 1. Love, Jim.
Who's Jim?
Oh, God, Tuesday, that's tomorrow.
Who's Susan? You know these people?
No, you see, Jim follows Susan all over the country. Last January, she was in Mexico City, then Seattle. They send messages back and forth. That's how they hook up. Now they're in New York. Desperate. I love that word. So romantic.
Everybody I know is desperate, except you.
I'm desperate.
You?
Sort of.
Bonjour, Suzanne Seidelmann.
Bonjour.
J'ai revu récemment Recherche Suzanne désespérément. Et en voyant le film, je me suis demandé qui vous étiez dans ce film. Est-ce que vous êtes Roberta, celle qui est jouée par Suzanne Sarandon? Est-ce que vous êtes Suzanne, celle qui est jouée par Madonna? Ou est-ce que le film est un peu un autoportrait des deux femmes que vous étiez à l'époque?
I think I'm a little bit of both.
Je crois que je suis un peu des deux, en effet.
I think I grew up to be Roberta.
D'après la manière dont j'ai été élevée, j'aurais dû devenir une Roberta, puis je me suis révoltée, rebellée, je suis devenue Suzanne. Et voilà pourquoi je voulais faire ce film, parce que je me reconnaissais dans ces deux personnages de femmes.
Je crois que quand vous avez lu le scénario qu'on vous a proposé et que vous aviez cherché pendant longtemps pour en faire votre deuxième film, il vous a plu parce qu'il vous évoquait un film français.
Oui, quand j'ai lu le scénario, ça m'a fait penser à un film de Jacques Rivette que j'avais vu en 1975, Céline et Julie vont en bateau. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'était la relation entre ces deux personnages féminins si différents et puis l'élément conte de fées aussi, j'ai adoré, et l'idée de se réinventer, de la réinvention. Et puis quand j'ai rencontré le scénariste qui a écrit Recherche Suzanne désespérément. Je lui ai dit que ça me faisait penser à Céline et Julie vont en bateau que j'avais vu il y a longtemps. Et elle m'a dit que c'était le même film qui l'avait inspiré pour l'écriture de ce scénario.
Ce que raconte à la fois votre cinéma en général et Céline et Julie vont en bateau, c'est l'histoire de jeunes femmes qui ne veulent pas rentrer dans des rôles qui sont écrits pour elles. On pourrait dire que votre film She Devil, la diable, raconte exactement ça, Suzanne Seidelmann.
Oui, beaucoup de mes films parlent de se réinventer. Ils parlent de la manière dont la société vous met dans des cases et que souvent on a envie de briser cette cage et devenir quelqu'un d'autre. C'était le cas dans Smithereens, même si le personnage là est plus autodestructeur. Mais ce thème, on le retrouve dans Recherche Suzanne désespérément et dans She Devil, la diable. Mais ça, c'est un peu plus une comédie de vengeance.
Ces formes préexistantes, vous les utilisez beaucoup, Suzanne Seidelmann. Vous jouez avec le genre du polar, avec le genre du film de mafia, de la science-fiction, de la screwball comédie même. Est-ce que vous aviez conscience qu'il fallait là aussi réinventer ces genres et introduire une dimension féminine dans ces genres très masculins?
Absolutely.
C'est tout à fait ça.
I grew up watching old Hollywood
movies. Quand j'étais petite, je regardais des vieux films hollywoodiens. Alors j'adore ce genre traditionnel, le tordre un peu, et puis les regarder à travers l'œil d'une femme. Et puis aussi parler sur le plan social. Moi, j'aime divertir les spectateurs. J'espère que j'arrive à faire rire les gens dans certains de mes films, mais je veux aussi les faire réfléchir après qu'ils aient ri.
Je parlais de la screwball comédie. Il me semble que des actrices de la trempe d'une Katharine Hepburn ou d'une Rosalind Russell ont dû être une grande inspiration pour vous.
Oh, absolutely, because women were great.
Absolument.
Screwball comedies gave women a chance fantastic. To be funny,
et la
sassy,
screwball comedy, ça permettait aux femmes de se déchaîner un peu, d'entamer des querelles avec l'acteur qui jouait le premier rôle, et souvent d'être plus maligne que l'homme dans le film. Dans les années 50, la femme finissait toujours par retourner à la chambre ou à la cuisine.
Oui, il y a régulièrement des mouvements comme ça dans la société américaine. Des années 40, on passe aux années 50. Des années 70, on passe aux années 80 de Ronald Reagan. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, on vit ce même mouvement, qu'il y a un retour de bâton, on voit un pouvoir très masculiniste en ce moment? Est-ce que c'est ce que vous observez aux États-Unis, Susan Seidelman? Au cinéma comme dans la société, je dirais.
There is definitely a backlash, but sometimes when there is that kind of backlash,
il y a un retour de bâton, un retour en arrière. Mais souvent, ça va renforcer ceux qui sont marginalisés. Moi, j'entends leurs voix, les voix des marginalisés, des minorités, les femmes, les gens de couleur. Les transgenres, plus la politique d'un pays devient conservatrice, plus j'ai l'impression qu'il y aura de gens qui auront besoin de se révolter contre ça. Et ça, on le sent dans le domaine des arts.
Une de vos grandes contributions artistiques, dès vos débuts dans les années 80, c'est d'avoir rendu glamour ou pop ce qui était underground à New York. Est-ce que vous l'avez fait consciemment et quel rôle vos études dans le domaine de la mode a joué dans cette glamourisation de l'underground?
Well, I wasn't trying to glamorize it, but I
like pas de rendre l'underground glamour.
Theatricality.
Mais j'aime bien qu'il y ait une dimension théâtrale. J'aime bien prendre la réalité et la pousser à son maximum, faire de l'hyperréalisme en quelque sorte. Dans Smithereens, c'est un peu gonflé, un peu hyperréaliste. Et puis recherche Suzanne désespérément, là ça l'est encore plus. Et j'ai fait un conte de fées autour de New York qui apparaît comme un pays de fées et la mode. J'étais inspirée par Alice au Pays des Merveilles, d'ailleurs, qui a inspiré aussi Jacques Rivette dans Céline et Julie.
Mais on pourrait dire que dans ces premiers films, il y a une sorte de Seidelman girl, Wren dans Smithereens, Suzanne dans Recherche Suzanne désespérément, je pense aussi à Cookie. Ce sont des filles qui se ressemblent, y compris physiquement, dans la manière de se vêtir, de mettre des lunettes de soleil. Par exemple, vous étiez consciente que vous décliniez un même personnage de film en film?
Bon, j'espère que ce n'était pas exactement le même personnage quand même. Mais je reconnais le personnage de Madonna dans Recherche Suzanne et Wren dans Smithereens sont toutes deux narcissiques et manipulatrices. Mais le personnage de Suzanne est plus charmant. Et du coup, elle manipule beaucoup mieux les gens, même quand elle se rate.
Could I say something about fashion?
Je ajouter quelque chose à propos de la mode.
I started out when I was a teenager. I thought I wanted to be a fashion designer.
Moi, je pensais que je voulais être styliste de mode. Quand j'étais ado, et donc j'ai suivi des cours à l'université. Et puis je devais avoir 19 ans, et puis j'étais coincée derrière une machine à coudre et pour apprendre le métier de la couture. Mais ça, ça ne me plaisait pas d'être toujours assise derrière une machine à coudre. Et j'ai compris que la mode pouvait raconter des histoires, pouvait émouvoir, pouvait avoir une dimension musicale ou être alliée à la musique. Donc c'est vrai qu'on sent cette influence de la mode dans mon travail. Et quand on regarde la scène d'ouverture de Smithereens, eh bien, c'est la mode qui va raconter l'histoire. Je n'ai pas besoin de mots ni pour décrire le personnage de Ren. On la voit qui rentre dans le cadre et on voit tout de suite la mini-jupe en vinyle, ses collants en résine déchirés. Et derrière, il y a une femme qui porte des lunettes de soleil à carreaux et elle porte une jupe à carreaux aussi. Donc cette image vous dit que voilà, elle va porter ses lunettes de soleil tout le temps. J'ai pas besoin de dialogue pour planter ce personnage. Et dans Recherche Suzanne désespérément, cet échange de persona entre le personnage de Madonna et celui de Rosanna Arquette, ça survient parce que, par hasard, elle porte la même veste avec une pyramide à l'arrière de la veste. Une pyramide qui doit représenter toute la mystique de l'Égypte et des pyramides, et aussi ce qui figure sur les billets, sur les dollars verts américains. Donc ça, ça représente la « material girl ».
Il y a aussi une utilisation de la couleur chez vous qui est très narrative, et notamment de la couleur rose, bien avant le film de Greta Gerwig, Barbie.
Yeah, I think She Devil is probably the second.
Oui, She Devil, la diable, ça doit être le deuxième film le plus rose jamais réalisé en Amérique.
But because pink is so associated with female,
mais
with feminine.
Mais le rose est tellement associé à la féminité.
She Devil, I was using it in a exaggerated.
Dans She Devil, la diable, je m'en servais de manière satirique, exagérée. Justement pour évoquer l'ultra-féminité, le personnage joué par Meryl Streep, elle vit dans un manoir rose au bord de la mer, elle s'habille toujours en rose et elle écrit des romans roses. Mais à la fin du film, elle s'habille tout en noir. Et elle n'écrit plus des romans roses.
Ce film n'a pas très bien marché, She Devil, alors que c'est un très bon film, parce qu'il n'a pas rencontré son public à l'époque, alors que Recherche Suzanne désespérément l'avait parfaitement rencontré. Je crois qu'aujourd'hui, She Devil est un film culte chez beaucoup de jeunes filles et de jeunes gens aussi. Quelles réflexions ça vous inspire sur le fait de rencontrer ou pas son époque avec un film ?
I think that She Devil might have been ahead of its time, and I think that
She Devil était en avance sur son temps. Et donc le public et certains critiques aussi ne savaient pas quoi en penser. Ils ne comprenaient pas que je jouais sur la satire, l'exagération. Je ne voulais pas faire un film sur deux femmes qui se battent pour un homme. Non, ce n'est pas ça l'histoire. Le personnage joué par Roseanne Barr n'aime pas Mary Fisher. Mais elle veut se venger de son mari qui la maltraite. Et Mary tire les marrons du feu grâce à cette revanche. Ça transforme son personnage. Mais il ne s'agit pas du tout du combat de deux femmes pour un même homme. Et certains critiques n'ont pas compris l'intention derrière le film. Mais c'est vrai, je m'aperçois que parce que le monde a changé, les hommes et les femmes ont changé, et bien beaucoup de jeunes saisissent l'esprit de ce film, alors qu'il y a 40 ans, beaucoup sont passés à côté.
Merci beaucoup.
Thank you. Thank you. It was a pleasure. Thinking how you did me wrong, I grew strong, and I learned how to get along.
Et oui, encore I Will Survive, cette fois par Sapphire. C'était dans la bande originale de She Devil, La Diable, un film à redécouvrir sans tarder. Suzanne Seidelman présentera aujourd'hui à 17h son premier film, Smithereens, et dialoguera demain à 15h30 avec le public à l'issue de la projection de son hit Recherche Suzanne désespérément. Le festival de la Cinémathèque française, c'est précisément jusqu'à demain. Merci à Evder d'avoir été la voix française de la cinéaste new-yorkaise. Vous écoutez France
France Culture et dans Plan Large. On aurait dû ouvrir, comme chaque samedi, le journal du cinéma avec quelques autres films à voir ou pas cette semaine, mais nous voilà pris par le temps. On ne saurait trop cependant vous recommander de ne pas rater dans les sorties de ce mercredi le médusant Black Dog, 12e film et premier à sortir en France d'un cinéaste chinois. Un film d'une grande beauté aride et tout à fait sidérante, tourné dans une ville en voie d'abandon au bord du désert de Gobi, censé se passer à la veille des JO de Pékin en 2008 et qui pourtant, dans cette histoire d'amitié entre un rocker repris de justice, un lévrier famélique à la tête d'une meute de chiens errants, rend manifestement hommage et justice, comme ses compatriotes Wang Bing ou Zhe Zhangke, qui joue d'ailleurs un petit rôle dans le film, à tous les laisser pour compte du miracle économique chinois, qu'il soit humain ou animaux. C'est beau comme du Chaplin post-apocalyptique, ne ratez pas ce Black Dog, soutenu d'ailleurs par France Culture. Ceci dit, place au raffinement maniériste des jardins anglais et de ceux qui les dessinent.
The execution of the drawings at Compton Anstey. For drawing number one, from 7 o'clock in the morning until 9 o'clock in the morning, the whole of the back of the house, from the stable block to the laundry garden, will be kept clear. No person shall use the main stable yard gates whatsoever, and no person shall use the back door or interfere with the windows or furniture of the back part of the house.
Un dessinateur emperruqué qui installe avec cérémonie un cadre dans le cadre sur le gazon d'un manoir britannique. L'énumération des termes du contrat qui le lie économiquement et charnellement à sa commanditaire. Une musique répétitive en forme d'hommage à Henry Purcell et signée Michael Nyman. C'est Meurtre dans un jardin anglais. Le film, quelque part entre le Barry Lyndon de Stanley Kubrick et le blow-up de Michelangelo Antonioni qui, en 1982, avait révélé comme cinéaste celui qui était alors peintre, décorateur ou encore curateur d'expositions plus ou moins fantasques, j'ai nommé Peter Greenaway. Un film aussi érudit que volontairement trompeur, Sophie-Catherine Gallet. Comment vous êtes-vous perdu ou retrouvé, qui sait, dans ces faux-semblants?
Alors bon, je vais pas vous mentir, hein. Je me suis d'abord franchement perdue, parce que donc c'est en effet une histoire de contrat dans l'Angleterre du XVIIe siècle, un accord passé entre Virginia Herbert, aristocrate, et Neville, dessinateur roturier. Alors l'enjeu est a priori clair, en échange de 12 dessins du domaine des Herbert, Neville pourra profiter sexuellement à sa guise de Virginia Herbert, mais à partir de ce pacte, se décompose comme un millefeuille de nouvelles directions dans une atmosphère narrative qui rappelle beaucoup les liaisons dangereuses aussi. Alors ces récits connus ou souterrains sont menés par une très grande galerie de personnages, si grande à vrai dire que les intrigues pourraient sembler donc de prime abord un tout petit peu touffues, tant les différents noms fusent et tant est mis en valeur un art du langage, de la circonvolution, de la logorée, pour ne rien dire d'autre que cacher l'enjeu véritable du discours. Autant de calques au fond mis devant le réel, qui détournent le spectateur et lui font perdre de vue la promesse du titre. Mais il faut bien dire qu'on s'abandonne aussi avec un certain plaisir à ce labyrinthe de perruques gaufrées et de lèvres carmin, à la cruauté ou à la vulgarité dite avec élégance, mais aussi à la composition des scènes, véritables tableaux dont l'inspiration picturale se situe dans les intérieurs chez les maîtres du clair-obscur, tandis qu'en contraste, les extérieurs sont eux nimbés d'une douceur, d'un soleil blond, contraste extrême comme représentant au fond la différence entre ce qui est dit et ce qui est tu. Les séquences d'extérieur viennent en fait, semblerait-il, épouser la vision du dessinateur Neville qui se promène donc dans chaque recoin du domaine avec avec son instrument de mesure, sorte de rectangle traversé par une barre horizontale et une barre verticale montée sur un chevalet, lui permettant de dessiner avec le plus de rigueur possible ce qu'il voit. Ce cadre se superpose souvent au cadre de l'image, jusqu'à ce que parfois l'image cadre Neville, soudain emprisonnée dans son propre cadre de mesure par le regard du cinéaste, retournant la sensation de pouvoir que Neville pense exercer sur le domaine et sur le corps de Virginia Herbert. Il devient alors objet sans en avoir conscience. Et en parallèle, s'égrène peu à peu des objets, là aussi, mystérieux, dispersés dans le jardin que Neville s'attache à ne pas effacer de ses vues, trop consciencieux pour supprimer ce qu'il voit, une chemise flottant au vent, des bottes, autant d'indices sans apparence logique.
Do you not think that before long you might find the body that inhabited all those clothes?
I am thinking very hard, madam, about the drawing you've left out. And you, madam, were in that drawing.
Are you sure, Mr. Neville?
Well, the sound of you was in the drawing. You were playing the spinet.
I thought, Mr. Neville, that we had discussed the pictorial equivalence of noise without conclusion. Perhaps it was not me playing the spinet and you thought of that.
And who, madam, was it?
You see, Mr. Neville, you are already beginning to play the game rather skillfully.
Four garments and a ladder do not lead us to a corpse.
Mr. Neville, I said nothing about a corpse.
Un extrait d'un discours savoureux entre la fille de Virginia Herbert, Madame Tallman, et Neville, où celle-ci indique que ses vêtements dispersés pourraient bien mener vers un corps. Ces éléments étranges qui se baladent en effet dans le cadre à la vue de tous, mais qui ne deviennent signifiants que lorsqu'ils sont vus autrement, ces objets qui ne peuvent être vus que parce qu'on accepte de les voir, deviennent prétexte pour un nouveau contrat. Madame Tallman explique à Neville qu'il pourrait être considéré comme complice de meurtre et lui assure la protection de sa famille s'il se plie à ce qu'il faisait lui-même avec Virginia Herbert, accepter toutes les exigences sexuelles de Madame Tallman. Alors on pourrait penser à un jeu pervers uniquement guidé par le plaisir, mais avec cette inversion de l'humiliation, c'est autre chose qui se révèle, une profonde haine de chaque classe sociale l'une envers l'autre. Le film devient alors un tableau rageur où chaque représentant d'une classe sociale en prend pour son grade, aristocrate perfide et manipulateur, roturier rigide et méprisant, et chacun, tour à tour, utilise une sexualité d'apparence libre et acceptée pour humilier l'autre. Cette rigidité de Neville est d'ailleurs essentielle dans la mise en scène de son incapacité à voir, une rigidité qui se retrouve dans sa manière de concevoir l'art du dessin face à un jardin anglais dont l'esthétique même se fonde sur un désordre arrangé, Neville voulant ranger, figer le temps, voulant en fait représenter le réel avec tant d'acuité qu'il en perd sa réalité, guidé par une forme d'obsession qui se répercute dans l'utilisation de la musique de Purcell réarrangée sur le mode de la répétition qui semblait raconter la psyché de Neville, quand en fait, il s'agirait peut-être plutôt en filigrane d'une illustration du piège qui se referme sur lui. La cruauté de couloir et de bons mots se mue finalement en une cruauté réelle, terrassante, dont le seul témoin, outre ceux qu'il exerce, ne sera qu'une statue vivante. Un objet que là encore, le spectateur avait vu sans voir tout le long du film. Une statue incarnée par un homme, recouvert de peinture grise, traversant parfois furtivement le cadre ou bougeant imperceptiblement jusqu'à recouvrer la totale possession de ses moyens durant cette scène finale. Il vient alors manger à pleines dents un fruit élevé en serre laissé par Neville, les yeux comme fou, perdu dans la pénombre de la nuit, un fruit amer qu'il recrachera aussitôt.
Thank you.
Merci Sophie Catherine Gallet. Meurtre dans un jardin anglais de Peter Greenaway, visible gratuitement sur arte.tv et ce jusqu'au 19 mars. Plan Large, c'est fini pour aujourd'hui. À la prise de son, Élise Leu et Virginie Lorda. L'émission était préparée par Anne-Vanessa Prévost et réalisée par Anne-Laure Chanel.